franceinter.fr.
Bonjour Aquilino Morel.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes médecin, énarque, inspecteur des affaires sociales. Vous avez à ce titre co-rédigé le rapport de l'IGAS sur le médiateur. Vous avez passé 5 ans à Matignon aux côtés de Lionel Jospin. Vous étiez, comme on dit, sa plume. En 2011, directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, vous vous mettez ensuite au service de François Hollande, notamment pour la rédaction du discours du Bourget, même si la formule « mon adversaire, c'est la finance » ne vient pas de vous. Écrivez-vous, mais du futur président. Vous accompagnez François Hollande à l'Élysée avec le titre de conseiller politique. Cela dure un peu moins de 2 ans jusqu'à un papier de Mediapart intitulé « Les folies du conseiller de Hollande » qui vous accuse de conflit d'intérêts avec un laboratoire pharmaceutique. Vous serez blanchi, mais aussi d'une séance de cirage de chaussures à l'Élysée. Vous en expliquez dans ce livre. Ce livre, c'est « L'abdication » chez Grasset, récit détaillé de la façon dont François Hollande a, selon vous, trahi les promesses du Bourget et surtout de la façon dont il a travesti sa vraie nature politique, celle d'un libéral. Au fond, votre thèse, c'est que le Bourget, ou la taxe à 75% sur les plus riches dont vous revendiquez la paternité, n'aurait été à vos yeux qu'une parenthèse destinée à se faire élire. D'abord, Aquilino Morel, est-ce que vous vous êtes posé la question du sens de ce livre et de son utilité après la renonciation de François Hollande à se représenter ?
Ce livre, c'est un livre, j'ai travaillé quand même 15 mois pour l'écrire, hein. C'est un livre, je crois, sérieux, vous l'avez lu, documenté, étayé. C'est un livre qui se veut utile.
Utile pour qui ?
Utile pour tous les Français, pas seulement ceux de gauche, d'abord peut-être ceux-là en premier, qui s'interrogent, mais tous les Français, parce que nous sommes aujourd'hui face à une situation quand même inédite. C'est-à-dire que le président de la République, sortant, s'est retrouvé dans l'incapacité de se représenter. Et au-delà de ça, il y a les raisons de cette incapacité à se représenter. C'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que on peut, et de nombreux Français le pensent, juger que le président de la République a raté son quinquennat parce qu'il n'est pas resté fidèle. Ne parlons pas forcément de trahison. D'ailleurs, dans le livre, puisque vous l'avez lu, vous le savez, je ne reprends pas ce mot à mon compte. Je dis que beaucoup de gens le disent.
Il y a à peu près tous les synonymes. Hein.
Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes synonymes, parce que je vais vous rejoindre. Pour trahir quelque chose, encore faut-il y avoir cru.
Et vous, votre thèse, votre idée, c'est qu'il n'y a pas cru, en réalité.
Je ne le sais pas, et personne ne le saura jamais, car personne n'était dans la tête de François Hollande lorsqu'il a prononcé le discours. Mais ce que je sais, et que j'ai su a posteriori, c'est facile d'être lucide a posteriori, mais il vaut mieux être lucide a posteriori que pas du tout, c'est que François Hollande, je crois, oui, est un vrai libéral.
Vous avez la conviction que le discours du Bourget a fait gagner François Hollande ?
Oui, il l'a fait gagner, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, lorsque François Hollande a été désigné au terme de la primaire, il n'était pas un candidat qui s'imposait de manière incontestable et qu'il avait besoin d'un sacre. Et ce sacre, ce fut le Bourget. Il a gagné aussi grâce au Bourget parce que ce discours était le symbole, et plus que le symbole, c'était la manifestation de l'alliance stratégique qu'il avait passée avec Arnaud Montebourg au terme du second tour, du premier tour.
C'était l'expression aussi d'un volontarisme.
D'un volontarisme
qui était
politique.
Celui d'Arnaud Montebourg, c'est-à-dire l'économie peut primer, la politique peut primer sur l'économie.
Vous savez, le Bourget, ça peut se résumer à deux phrases très simples. La première, c'est ce qui est en cause, c'est la souveraineté de la République face au marché et à la mondialisation. C'est une phrase qui aurait pu être tirée d'un discours d'Arnaud Montebourg. Et la seconde phrase, que le général de Gaulle n'aurait pas renié, c'est la France n'est pas un problème, la France est une solution. Donc, deuxième raison pour laquelle le Bourget a fait élire François Hollande, c'est la manifestation de cette alliance politique. Et puis enfin, l'esprit du Bourget, celui que je viens de vous rappeler à l'instant, c'est celui qu'attendait le pays, qu'attendaient les Français. Après ce discours, il y a eu un enthousiasme qui a commencé à se lever à gauche et un peu au-delà. C'est ça qui a permis à François Hollande d'être élu président de la République.
On comprend, en vous écoutant, que vous êtes resté fidèle à Arnaud Montebourg et à ses idées. Il y a deux épisodes décisifs.
Je suis fidèle au discours du Bourget.
Que vous racontez. Il y a deux épisodes décisifs que vous racontez dans ce livre. Le premier, c'est le ralliement d'Arnaud Montebourg à François Hollande. Vous racontez, vous êtes tout proche de lui, vous avez eu deux réunions successives, d'abord avec Martine Aubry, ça s'est très mal passé parce qu'il y a un contentieux...
On peut dire que ça ne s'est pas passé du tout.
Il y a un contentieux très important entre Martine Aubry et Arnaud Montebourg, c'est l'affaire Guérini, Jean-Noël Guérini, le patron des Bouches-du-Rhône pour le Parti Socialiste. Et puis, au moment d'annoncer son vote, sa décision de voter pour François Hollande, il doit l'annoncer dans une interview au Monde, Arnaud Montebourg s'effondre.
Il s'effondre pas, mais disons qu'il est tiraillé.
Il est perdu, il est démuni, etc. Ouais. Et vous lui dites, tu dois faire le choix de la victoire. Tu dois faire le choix de la force. Oui, ouais. Et de la victoire à venir. Et puis, deuxième épisode, Florange, Arnaud Montebourg est battu. Son choix de nationalisation est battu par Jean-Marc Ayrault, par le Premier ministre. Il veut démissionner et vous le convainquez. Vous êtes auprès de François Hollande à l'Élysée. Vous le convainquez de rester à son poste. Alors, pourquoi
vous voulez des explications sur les deux moments?
Absolument.
Le premier. Arnaud Montebourg s'était opposé, vous l'avez rappelé, assez durement avec Martine Aubry, et à peu près autant, si ce n'est davantage, avec François Hollande, peut-être même plus. Donc faire le choix au lendemain du premier tour, d'ailleurs j'étais dans votre studio ce matin-là pour expliquer la position de Montebourg, c'était un choix qui était difficile parce que c'était, comme il l'a dit, les deux faces d'une même médaille. Donc on a fait le choix, bien sûr le choix de la victoire, parce que la gauche en 2011, le Parti Socialiste, voulait gagner. Nous voulions battre à toute force Nicolas Sarkozy, et nous avions raison. Donc nous avons fait le choix du candidat sorti en tête, 39% des voix, qui avec l'appui des voix d'Arnaud Montebourg pouvait se trouver en situation de l'emporter nettement. Et le candidat de la gauche avait besoin de cette force, de cet élan initial. Donc ce fut un choix douloureux et difficile pour Montebourg, mais il l'a fait et c'est ça qui compte.
Vous êtes sûr de ça? Beaucoup estiment que François Hollande avait parti gagné déjà dès après le premier tour, compte tenu de l'avance face à Martine Aubry.
On ne refera pas l'histoire, mais
vous
en tout cas,
vous-même.
Si vous ajoutez les 30% de Martine Aubry et 17% d'Arnaud Montebourg, on n'arrivait pas à la majorité. Donc il fallait donner de la force au candidat. Donc Arnaud Montebourg a fait ce choix, il l'a fait en conscience. Ce fut un choix difficile pour lui, il a été tiraillé, vous rappelez cette scène, c'est vrai. Mais il a fait le choix, et je crois qu'il a fait le choix juste à ce moment-là.
Florange, c'est une orientation politique importante qui a été défaite à ce moment-là. Pourquoi rester à la fois pour Arnaud Montebourg et puis pour vous, surtout à l'Élysée?
J'étais le conseiller politique du président de la République. Oui. J'étais plus le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg. J'avais fait mon choix. Le président m'avait proposé de le rejoindre. J'ai accepté et j'étais fier d'être son conseiller. À ce moment-là, une crise grave s'ouvre. Florange, on est à 6 mois après l'élection de François Hollande. 6 mois. Si nous étions partis, moi de l'Élysée, Montebourg du gouvernement à ce moment-là, que n'aurait-on dit? On aurait dit, mais vous fuyez à la première difficulté, vous quittez le navire, vous désertez. Donc nous sommes restés parce que nous avons pensé, moi à ma place, Montebourg à la sienne, et d'autres d'ailleurs, car d'autres ministres partageaient cette vision, que c'était de l'intérieur que l'on pouvait peut-être, infléchir le cours des choses, tenir, résister. Nous nous sommes trompés, la suite des événements l'a prouvé, et cruellement. Et nous sommes les premiers à l'avoir éprouvé cruellement. Mais, encore une fois, la lucidité rétrospective, elle est facile. Sur le moment, il fallait choisir, et au bout de 6 mois, ouvrir une crise politique majeure, ce qu'aurait représenté la démission de Montebourg du gouvernement à ce moment-là, c'était le 30 novembre 2012. C'était très grave. Et quand le président m'a dit « Que va faire Arnaud Montebourg ?» que je lui dis la vérité, je ne le sais pas encore. Et qu'il m'a dit « Fais ton possible pour qu'il reste, nous ne pouvons pas nous permettre cette crise politique, eh bien j'ai agi, je crois, comme je devais le faire, à la fois comme conseiller du président et comme ami d'Arnaud Montebourg.
L'abdication, c'est le titre de votre livre. Cette abdication, vous la datez de juin 2012, fin juin 2012, Conseil européen où la volonté de François Hollande, la volonté exprimée pendant la campagne de réorienter l'Europe, elle s'évanouit en quelque sorte. Et vous dites qu'il y avait les moyens politiques de constituer une coalition avec l'appui de quelques grands pays européens, celle des États-Unis également, pour imposer une politique de relance à l'Europe.
Le 18 mai 2012, j'étais avec le président de la République dans le bureau Oval en face de Barack Obama. Que lui a dit le président Obama? Il lui dit, vous avez été élu sur la nécessaire relance de la croissance et la recherche du plein emploi en Europe. Vous avez raison. Cela ne me regarde pas, mais vous avez raison et je vous soutiens. Demain, nous serons à Camp David au G8. Je le dirai et je vous soutiendrai. Le lendemain, au Camp David, au G8, Obama a soutenu Hollande. Mario Monti, le président du Conseil italien, a soutenu François Hollande dans cette volonté de réorientation de l'Europe et d'une Europe de la croissance. Idem de Cameron à sa manière, mais il était là. Et donc, il y avait la possibilité, d'ailleurs, ce que Monti a organisé tout de suite après, c'est-à-dire un sommet à Rome, avec cette fois-ci l'Espagnol Mariano Rajoy, pour organiser un môle politique qui était destiné à réorienter l'Europe. Et ces leaders-là attendaient que François Hollande, qui venait d'être élu, qui avait l'onction du suffrage universel et qui avait pris cet engagement, ces engagements-là, pendant la campagne, et notamment pendant le discours de Bourget, ils attendaient de lui qu'il devienne le leader d'une nouvelle Europe, l'Europe de la croissance et de la recherche de l'emploi. Je constate simplement que ça ne s'est pas produit.
Et vous racontez qu'Obama, 2 ans après, interpelle François Hollande directement. Qu'est-ce qui se passe en Europe? On comprend pas bien. Il semble que les choses n'ont pas progressé depuis notre premier entretien. Toujours pas de mesures en faveur de la croissance.
Oui, what's going on in Europe? Et François Hollande répond, vous avez de la chance, vous n'avez pas Madame Merkel.
Aquilino Morel, les conditions de votre départ de l'Élysée en printemps 2014, un cireur de chaussures pour un conseiller de l'Élysée, c'est une faute qui méritait sanction?
Oui, c'est une faute qui méritait sanction. Et ce que je regrette infiniment, c'est que cette sanction ne soit pas venue de façon normale. Qu'est-ce qui aurait été normal, humain, loyal? C'est que le président informé de cette faute, qui était une faute de comportement stupide, me convoque dans son bureau. Ils me disent, écoute, tu as fait une erreur, d'abord je te demande que ça ne se reproduise jamais, et à la limite qu'il me sanctionne. L'a-t-il fait? Non. Lui et les gens qui étaient informés de cette faute l'ont conservé par devers eux pendant 1 an.
Vous êtes sûr de ça?
Oui, je suis sûr de ça.
Il a dit le contraire à Gérard Davé et Fabrice Lhomme.
Eh bien,
qu'il n'était pas au courant.
Il a dit beaucoup de choses dans ce livre.
Oui, y compris que à ce moment-là, vous n'étiez plus un conseiller de premier plan et que vous faisiez la conversation aux journalistes.
Alors, écoutez, si c'était un conseiller de premier plan, si je n'étais plus et que je faisais la conversation avec les journalistes, je ne faisais que répéter ce que mon patron faisait lui-même. Le livre l'a étayé de manière assez claire. Donc, pour le reste, ce que je regrette beaucoup, c'est que le président que j'ai servi loyalement, jusqu'à la dernière minute du dernier jour, parce que jusqu'à la dernière minute du dernier jour, je lui ai dit la vérité et c'était mon devoir. Eh bien, au lieu de me sermonner, de me punir, de me sanctionner, comme vous dites, il a attendu le moment opportun pour lui, le moment après le départ de Jean-Marc Ayrault, le moment où les choses devaient finir par prendre une autre configuration, celle du tournant social-libéral qu'il préparait depuis un moment, pour m'expulser dans des conditions qui ne sont pas dignes.
Vous l'accusez de mensonge, de machiavélisme et de dissimulation assez incroyable. Pendant 1 an, il aurait tenu cette information secrète pour pouvoir la retourner contre vous.
Écoutez, il y a une vérité d'homme à homme qu'on ne peut pas partager avec vous. Si le président veut me dire le contraire les yeux dans les yeux, il sait comment le faire.
Aquilino Morel, l'abdication chez Grasset, on en reparle dans quelques minutes avec les auditeurs d'Inter, évidemment, il est 8h33.